Chapitre 33. Papa. Vendredi, 18 août 2000, 21h57. Cric aux mauves, île de Mornecey. La silhouette se retourna. Elle me fit face. Il faisait encore suffisamment jour. Elle était à moins de 30 mètres, au-dessous de moi. Il n'y avait aucun doute. C'était mon père. C'était lui, vivant. J'avais raison, ils se trompaient tous. Je braquai ma lampe torche. Aveuglé, il plaça sa main en visière, semblant s'interroger pendant de très longues secondes. Enfin, il me lança un immense sourire. « Colin ?» Nous étions séparés tous les deux par 20 mètres de dénivelé. Nous restâmes stoïques, comme deux idiots. Il rompit le silence, le premier.
« Descends ! Descends vite !»
En quelques secondes, j'étais sur la plage, à quelques mètres de lui. Il y eut encore quelques instants de gêne. Ce fut lui qui me prit dans ses bras.
« Colin, tu es venu alors, tu m'as retrouvé ? Colin, mon fils !»
Il se recula pour me regarder, ses mains tremblaient.
« Dire que tu as 16 ans demain, 16 ans, plus de 10 ans sans te voir !»
Moi aussi je l'observais, je le reconnaissais. Je me souvenais de chaque détail maintenant. Il portait une barbe assez longue, il était peut-être méconnaissable pour les gens de l'île, mais pas pour moi. Je me rappelais précisément chaque trait de son visage. Il n'alla pas plus loin dans les embrassades. Cela m'arrangeait. Je n'étais pas très à l'aise avec ses gestes intimes. J'étais terriblement ému. Lui aussi, je le sentais. Mais je n'avais jamais eu l'habitude des gestes de tendresse, des câlins et des baisers. Lui non plus, apparemment. « Assieds-toi, » me dit-il doucement. Il en fit de même, et nous nous retrouvâmes face à face sur la petite plage déserte. La lune se reflétait dans l'eau. Un peu au sud, le phare des Enchaînés éclairait la crique de son faisceau lumineux, à intervalles réguliers, comme l'immense projecteur d'un mirador. Tout était calme. Tout me semblait presque irréel. Irréel, sauf mon père bel et bien vivant, face à moi. « Alors, » commença-t-il, « tu es bien arrivé ? Tu as reçu la lettre du notaire ?» Tout de suite, sa question me stupéfia. « Quelle lettre ?» Ce fut au tour de mon père de paraître surpris. Nos retrouvailles tournaient au surréaliste. « Tu n'as pas reçu ma lettre ? C'est pas pour ça que tu es ici ?» Devant mon attitude toujours étonnée, il m'expliqua. « Le notaire de Mornecey, Serge Bardon, devait t'envoyer une convocation il y a une semaine environ pour t'informer que tu devais revenir sur l'île de Mornecey lorsque tu aurais 16 ans et passer à son étude. Une histoire d'héritage, tu t'en doutes. » Il s'autorisa un petit sourire. Je m'expliquais. « J'étais déjà ici, il y a une semaine, en camp. » Je lui donnai quelques détails sur mon séjour. Mon père eut l'air ennuyé. « Thierry et Brigitte ont dû recevoir la convocation. Ils auraient dû te prévenir. C'est tout de même... » Je le coupai. « Ils arrivent demain, papa. » Il parut une nouvelle fois très surpris. « Demain ? Sur l'île ? Oui, ils viennent me rejoindre pour mon anniversaire. Ils m'apporteront sûrement la convocation du notaire ? Sûrement, sûrement. » Il resta pensif, laissant courir du sable entre ses doigts. C'était un moment très doux, empli de mystère et de nostalgie. Je me disais que j'avais le temps, tout mon temps. Je continuais. « C'est pour ça que tu n'as pas été si étonné de me revoir ? Tu t'attendais à ce que je revienne à cause de ta lettre ?» Un temps de silence. Mon père répondit. « Je m'attendais plus à grand-chose, tu sais. Cette lettre, c'est un peu une bouteille à la mer, envoyée il y a si longtemps, 10 ans. Si, depuis, j'avais pu la rattraper. Finalement, c'est beaucoup mieux ainsi. Je pourrais te parler et t'expliquer, avant que tu ne la lises. Comment m'as-tu retrouvé ?» Je levai les yeux vers la cabane au-dessus de la plage. « Le vieux marin !» Il sourit. « J'aurais dû me méfier. Il est plus malin qu'il en a l'air. Mais c'est l'un des rares de l'île que je crois honnête. Il m'aurait pas dénoncé à quelqu'un d'autre que toi. Lui aussi, ils l'ont détruit, il y a longtemps. Enfin, c'est une autre histoire. » Il s'arrêta pour me regarder. Sa main jouait toujours avec le sable. « Tu es devenu un homme ?» fit mon père. « Tu parles ?»« Si, si !» Il sourit. « Tu n'as pas le choix, de toute façon. » Visiblement, il ne savait pas par quoi commencer. Je l'aidais. « Pourquoi tu m'as jamais dit que t'étais vivant ?» Il sembla soulagé de la question. « Pour ta sécurité, Colin. Parce que tu étais en danger. Parce que je devais me cacher. Tout le monde devait me croire mort. Raconte-moi. » Je m'installai un peu plus confortablement dans le sable et je me laissais aller à écouter sa voix qui me berçait comme dans ma plus tendre enfance. « Bien sûr, tu vas savoir. Mais il faudra être très prudent, Colin. Très prudent. Ne faire confiance à personne. Surtout pas sur cette île. Personne. Tu sais, cette île est un coin de terre très étrange. On la croit calme et tranquille, et pourtant, presque tout le monde cache un crime, commis par lui ou quelqu'un de proche. Tout le monde se tient. Tu sais, comme ces mafias en Sicile, en Corse. Comme ces mafias, mais en plus secret. Une mafia du Nord, discrète, insidieuse. Mais c'est la même, la loi du silence. Tout le monde épiant tout le monde. Tout le monde ayant des intérêts à perdre. C'est pour ça qu'il fallait qu'on me croie mort. J'avais plus personne à qui faire confiance sur l'île. C'était la seule façon. Raconte-moi. Tu sais, Colin, cette île, bien avant que tu naisses, a d'abord été un paradis pour nous. Comme pour tous les étrangers qui débarquent, les touristes, l'été. Enfin, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, des touristes. Je suis venu ici après mes études d'histoire, option patrimoine et archéologie. J'étudiais les ruines de l'abbaye Saint-Antoine. Une abbaye de bénédictins oubliée, parce qu'elle avait été presque entièrement détruite à la Révolution. J'y ai d'abord fait des séjours de quelques semaines. Ta maman venait souvent avec moi. On s'était rencontrés à l'université de Caen, en deuxième année. On avait 19 ans tous les deux. J'ai soutenu ma maîtrise sur l'abbaye, puis j'ai continué à fouiller. J'étais surveillant d'internat dans un collège, sur le continent, mais je revenais à chacune des vacances. Plus je fouillais, plus je m'apercevais que le sous-sol de l'île abritait un véritable labyrinthe. J'étais presque le premier, depuis 2 siècles, à me pencher sur ces ruines. Il y avait tout à faire, à découvrir. On s'est mariés 2 ans après avec ta maman. Le mariage de mon père et de ma mère, l'histoire d'amour de mes parents. Tout en l'écoutant, un souvenir me revenait. Toujours ce même souvenir, obsédant. Ces photos et ce film, la table d'adultes, et moi jouant dans la poussière par terre. Mon père assis à côté de moi. Cette main qui se tournait vers moi. Cette main tenant un verre de vin, le reposant, s'agitant. Cette main qui caressait la cuisse d'une fille aussi, pas celle de ma mère. La cuisse de cette fille rousse, cette Jessica. La main de mon père glissait sur le sable, jouant à éparpiller les grains. Il marqua une longue respiration, comme si la nostalgie était trop forte. J'avais le sentiment que cette caresse sous la table était la cause de tout, expliquait tout. Mes parents s'aimaient tant, tout le monde autour de moi me l'affirmait. Une telle passion pouvait tourner au drame à cause d'une simple infidélité. Qu'était-il réellement arrivé à mes parents? Je levai les yeux vers mon père, je frissonnais. N'étais-je pas encore en train de m'inventer un destin shakespearien? À cause d'une simple infidélité, d'un simple flirt? La vérité était sans doute tristement banale. Une seule question importait finalement. Aurais-je le courage d'en parler à mon père? Mon père, sans percevoir mon trouble, poursuivit son récit. Avec ta mère, nous revenions de plus en plus souvent sur l'île. J'avais créé une association, l'association Saint-Antoine. On commençait à être un peu plus nombreux. Ta mère avait entraîné son frère Thierry dans l'aventure, histoire de l'intéresser à quelque chose. Sa copine Brigitte avait suivi aussi. Ils étaient assez désœuvrés à l'époque. J'avais réussi à convaincre d'autres copains de la fac, mais il n'y avait personne originaire de l'île. On était déjà assez mal vus. On devait nous prendre pour des fouineurs, mais je ne m'en apercevais pas. J'étais dans ma bulle. L'agriculteur sur le domaine de l'abbaye nous tolérait à peine. Si on tenait, c'est parce que le conservatoire des sites historiques nous soutenait, que j'avais les autorisations officielles. Il ne pouvait pas nous mettre dehors. Je croyais que le terrain t'appartenait? Pas à ce moment-là. L'agriculteur est mort l'année d'après. Le terrain était en vente. Ta maman avait un peu d'argent de côté. Elle avait hérité de son grand-père. Moi aussi, un petit peu. Un ami m'aida également, m'avança la somme. Tu ne le connais pas. Le PDG de Robild, c'est ça? Il me regarda, étonné. Je suis allé rendre visite à Nounou hier. Elle m'a expliqué un peu. Elle va bien, Martine? Oui. Tu as dû lui faire chaud au cœur. Je crois, oui. Continue à raconter, papa. Le terrain de l'abbaye. On a été les premiers à se porter acquéreurs du terrain. À l'époque, il n'y avait pas encore trop de touristes. Pas de ferry non plus. Peu de voitures. C'était surtout un champ de cailloux. On l'a pas eu très cher et le terrain était à nous. C'était comme un rêve de gosse pour ta mère et moi. Peut-être surtout pour moi, d'ailleurs. On est venu s'installer en 1981. Au départ, on était 5. Nous deux, ta maman et moi. Thierry et Brigitte sont arrivés quelques mois après. Et un copain de fac. Maxime ? Demandai-je. Maxime Prieur ? En m'entendant prononcer ce nom, mon père ne put dissimuler un mouvement d'inquiétude. Il se reprit aussitôt. « Tu te souviens de lui ?»« Non, bafouillai-je. C'est Nounou qui m'en a parlé. Qu'est-il devenu ?
Il hésita, comme gêné.
Je ne sais pas.
Il affichait un sourire qui me dérangea sur le moment, comme si ce Maxime Prieur l'avait déçu, plus même, trahi. On était proches, très proches même. Je crois qu'il m'admirait beaucoup, moi, ma vie, ta mère, notre couple. Je croyais qu'il m'admirait. En réalité, il m'enviait. Mais je ne m'en suis aperçu que bien plus tard, bien trop tard.
À nouveau, je repensais à la main de mon père sous la jupe de cette Jessica, à ce Maxime jaloux de mon père, à ce Maxime amoureux de ma mère, une sordide histoire d'adulte qu'on ne m'avouait pas. La lumière du phare éclaira à nouveau la plage, illuminant un bref instant le visage de mon père. Il était calme, rassurant. Qu'allais-je chercher ? Pourquoi le juger toutes ces années après ? Mon père continuait son récit.
À ce moment-là, les premières années, on vivait en communauté avec trois fois rien, comme des hippies un peu attardés. On remettait l'abbaye en état, un chantier permanent. C'était du sérieux, remarque. L'inspecteur des monuments historiques contrôlait tout ça. On creusait, on grattait, on lustrait, on reconstruisait à l'identique, on fouillait les immenses galeries. Pour des non-initiés, je le reconnais, ça ne devait pas avoir l'air bien passionnant. Des pierres taillées, de la vaisselle, des restes de mobilier, des outils médiévaux. Mais pour nous, c'était notre œuvre. Remettre sur pied l'abbaye Saint-Antoine, une abbaye qui avait tout de même assuré la prospérité de l'île pendant des siècles, cela valait bien quelques années d'efforts, non ? Tu es né 3 ans plus tard, sur l'île. Nounou s'est occupée de toi. Elle était l'une des seules sur Morne-Saye à nous apprécier vraiment. Elle gérait l'intendance, les repas, toutes ces choses. Et quand tu es arrivé, elle s'est occupée de toi jusqu'à tes 5 ans. On a habité tous ensemble environ 9 ans là-bas. C'était, comment dire, l'âge d'or. Tu étais notre petit prince. Le seul enfant, tu t'en souviens ?
Mon seul souvenir précis, à l'exception de quelques détails comme la route de chez Martine ou des courses avec son chien Pacha, c'était toujours cette table. Cette table bruyante d'adultes qui parlait fort, buvait, se disputait.
« Oui, un peu, »
mentis-je. Mon père s'en aperçut. « Tu étais petit, et puis je l'aidais. On y arrivait.
J'ai été traumatisé depuis.
Oui. Il y a peut-être des choses que tu as eu envie d'oublier. » Il marqua un silence et précisa. « Moi, par exemple. » J'ouvris la bouche, mais il me fit doucement signe de me taire. Nous gardâmes le silence quelques instants. Soudain, un bruit me fit sursauter, derrière moi. Un craquement. Mon père semblait ne rien avoir entendu. Mon imagination, sans doute. Un animal. En tout cas, rien d'important. La suite du récit dissipa mon inquiétude. La vie en communauté, au bout de quelques années, n'a plus été aussi idyllique. Les fouilles ne rapportaient rien. Les subventions des monuments historiques ne suffisaient plus. Et de toute façon, elles baissaient. Et surtout, la motivation n'était plus la même. Certains, logiquement depuis 1981, avaient vieilli, s'étaient mariés, étaient partis. Sans moi et ta mère, tout le monde aurait laissé tomber notre vieux rêve. On sentait bien que c'était la fin d'une époque. On avait commencé à ouvrir l'abbaye au public, mais ça restait confidentiel. L'image des ruines de l'abbaye me revenait. Malgré les liens du sang, l'hérédité, je n'arrivais pas à déceler en moi une quelconque passion pour ces cailloux. Mon père poursuivit. Et puis, le Conseil général a mis en place une liaison quotidienne en ferry, Grandville-Morne-Saye, pour promouvoir le tourisme. Évidemment, la pression sur l'île n'a plus du tout été la même. Le prix des terrains a flambé. Tous les agriculteurs vendaient. Rapidement, tous les regards se sont tournés sur nos 40 hectares de champs, en pente douce en direction de la mer. Un balcon immense sur la Manche. Et tous les membres de l'association se sont vite aperçus qu'ils avaient entre les mains une fortune potentielle.
Même si le terrain t'appartenait ?
Oui, légalement j'étais le propriétaire. Mais par contre, la gestion du terrain de l'abbaye ne pouvait être décidée que par le conseil d'administration de notre association. C'est moi qui avais insisté pour cette gestion collégiale, par idéalisme ou par naïveté. L'aménagement du terrain, son entretien, sa vente éventuelle, ne pouvait passer que par un vote des membres. De même, les pertes liées à l'exploitation du terrain, comme les bénéfices, revenaient à l'association. Longtemps, il n'y avait eu que des pertes. C'était aussi une façon pour moi de me couvrir financièrement. Le terrain m'appartenait, mais j'avais pas les moyens de financer les fouilles, l'équipement, les salaires. Lorsque l'association a commencé à être déficitaire, certains se sont mis à penser qu'on pourrait tout laisser tomber et vendre le terrain. Ils avaient peur pour leur petit salaire et surtout, ils imaginaient qu'il y avait de gros bénéfices à se partager. Officiellement, une association ne peut pas dégager de bénéfices pour ses membres. Mais officieusement, les offres venaient de partout, alléchantes, plus que ça. Mon beau-frère Thierry faisait partie de cela. Lui qui n'avait jamais rien fait de sa vie, aucune étude, jamais pris aucune initiative. Mais à l'époque, on devait être en 1988 ou 1989, personne n'osait vraiment me dire tout ça en face. Je tenais bon. C'est alors que la mairie a lancé son missile. La SEMITIM, la Société d'économie mixte pour l'investissement touristique sur l'île de Mornessay. C'est quoi exactement une société d'économie mixte ? Un mélange détonnant de capitaux privés et de capitaux publics locaux. C'est légal et très courant en France. Dans la société, les élus locaux gardent le pouvoir de décision, mais les bénéfices ou les pertes sont pour la société et ses actionnaires. Si les élus ou des amis à eux sont aussi les actionnaires, t'imagines ce que ça peut donner. Donc la SEMITIM, par l'intermédiaire du maire de l'époque, Henri Morisseau, avait pour projet d'acheter notre terrain et d'en faire un immense complexe touristique. Tu t'en doutes, pour moi, il n'était pas question qu'on vende. Surtout pour faire du béton. Des centaines d'appartements empilés les uns sur les autres. D'abord, la mairie a testé la méthode douce. Les emplois sur l'île que le projet de la SEMITIM allait créer. Les vacances pour tous, pour pas cher. Ensuite, ils ont essayé les dessous de table, des promesses, beaucoup d'argent. Enfin, ce furent les menaces. Elles restaient toujours indirectes, mais c'était clair. On ne voulait plus de nous. On recevait des menaces de mort, anonymes, des échafaudages qu'on retrouvait par terre au matin, des voitures embouties, des vitres brisées. Ils n'avaient pas de mal à trouver des exécuteurs pour leur basse besogne. La majorité des gamins de l'île avaient déjà fait de la prison. Ça donnait l'impression d'une vaste conspiration contre laquelle on ne pouvait rien, que l'île entière se liguait contre nous. Nous n'avions plus aucun soutien. Indésirable. Mon père marqua une pause, serrant une poignée de sable entre ses doigts. Sa main tremblait. Je m'en voulais un peu de raviver tous ces souvenirs. D'un autre côté, j'étais fier de voir ainsi naître, renaître, une complicité avec mon père. Une complicité mise entre parenthèses pendant 10 ans. Il continua. Le plus étonnant, c'est que j'ai jamais compris comment ce terrain pouvait être déclaré constructible. Il aurait pas dû l'être. Avec un sous-sol truffé de souterrains, la vue sur la mer, la proximité d'un monument historique, ça faisait beaucoup tout de même. Mais on n'avait aucun recours. Tout avait été fait dans les règles, légalement. Tout le monde se tenait. La SEMITIM, ce n'était pas seulement le maire Morisseau. Il n'était qu'un truand parmi les autres. La SEMITIM réunissait toute une série de conseillers municipaux, d'agriculteurs, d'artisans, de commerçants, tous habitant sur l'île depuis des générations. Tu sais, Colin, chaque île anglo-normande possède sa propre sinistre histoire. Jersey est devenu un paradis fiscal qui blanchit l'argent des escrocs du monde entier. Cerc a toujours gardé son seigneur et son régime féodal. Mornessay est un discret repère de truands. Les hommes de la SEMITIM possédaient les terrains à côté de l'abbaye, les bras pour construire leurs cages à touristes, les capitaux pour les financer, et ils étaient bien décidés à s'enrichir, en bétonnant, sans se poser de questions sur le littoral. Mais ils étaient coincés. Notre terrain se trouvait au beau milieu de leur plan. « Personne ne vous a défendu ?» m'étonnai-je. Mon père laissa passer la lumière du phare, pensif. Les personnes de bonne foi étaient peut-être majoritaires sur l'île, mais elles ne disaient rien, ne faisaient rien, fermaient les yeux. Par peur, bien entendu. Du coup, le pouvoir était aux mains de la SEMITIM. Et de la clique sans scrupules qui la constituait. J'étais décidé à tenir bon. Mais à part ta maman, comme je te l'ai dit, je me sentais de plus en plus isolé au sein de l'association. La peur faisait son effet sur tous mes amis. La peur et l'appât du gain aussi. Au bout de quelques mois, ce n'était plus tenable. Même ta maman avait peur. Pour toi. Un soir, un mur de l'abbaye s'est écroulé. Pas par hasard, bien sûr. C'était un mur qu'on avait relevé quelques semaines auparavant. Tu avais joué à l'ombre de ce mur pendant toute la journée. Mon père semblait affecté, comme s'il portait encore la responsabilité de ce qui était arrivé. Il enfouissait toujours sa main dans le sable, jusqu'à trouver des grains encore humides pour les pétrir. Il poursuivit son récit. J'étais seul. Ta mère voulait fuir, quitter l'île, te protéger. Thierry, son propre frère, et Maxime, mon meilleur ami, complotaient dans mon dos. Ils hésitaient entre vendre le terrain et entrer eux-mêmes dans la SEMITIM. J'ai jamais connu la teneur exacte des propositions qu'ils ont reçues, mais les pots de vin devaient être considérables. Pourtant, j'étais têtu à l'époque. Stupide, sans aucun doute. Moi aussi, j'avais des relations. Alors j'ai décidé de les contrer, de contrer la SEMITIM. Je pouvais pas vendre le terrain à quelqu'un d'autre. La mairie aurait usé de son droit de préemption. Je ne comprenais pas tout, notamment ce qu'était un droit de préemption, mais je l'écoutais sans l'interrompre. Il cria presque, non sans une certaine fierté. Alors, je les ai pris à leur propre jeu. Développer le tourisme sur l'île de Bornecet ? Pourquoi pas, après tout ? J'ai fait appel à une autre entreprise. Eurobuild ?
Oui, Eurobuild. Tu es au courant, évidemment.
Ça a fait du bruit à l'époque. C'était une entreprise spécialisée dans les projets intégrés des militants du tourisme citoyen. Ils utilisaient des matériaux naturels, conservaient des espaces verts, ne construisaient rien, ou presque, en hauteur. Ils avaient déjà développé leur concept sur plusieurs littoraux, en Irlande, en Corse, en Andalousie. Ça marchait assez bien, et surtout j'avais confiance. Le patron de la boîte était cet ami proche, un ami d'enfance, mon mécène sur l'île depuis le début, Gabriel Bordery. Les autres membres de l'association ont été d'accord ?
Plus ou moins,
mais je possédais encore un ascendant moral sur eux. Ils hésitaient à s'opposer à moi frontalement. Et surtout, le projet tenait vraiment la route. Même si, tu t'en doutes, il n'était plus question de pot de vin ou de bénéfices personnels. J'avais moi-même dessiné les plans avec Gabriel. On avait baptisé le projet « Les Sanguinaires ». C'était le nom historique de la parcelle depuis le Moyen-Âge. Je tenais à le garder, même si Gabriel ne trouvait pas le nom très commercial. On intégrait l'abbaye et la croix Saint-Antoine dans le projet. La sémitime était mise hors jeu. Je croyais tenir la solution idéale, même si je m'attendais bien sûr à une très forte hostilité locale. Mais tu sais, Colin, aussitôt que j'ai rendu mon projet public sur l'île, on m'a témoigné discrètement beaucoup de marques de sympathie, en quelque sorte, des oufs de soulagement face au projet initial. La majorité des Iliens étaient de mon côté, même s'ils ne le disaient pas. Tu vois, Colin, à l'époque, je me croyais le plus fort. J'admirais de plus en plus mon père. Il était bien comme on me l'avait décrit, militant, idéaliste, battant. Est-ce que je lui ressemblais ? Étais-je digne de lui ? Il me regarda dans les yeux. « Tu vois, Colin, il ne faut jamais se croire le plus fort. Jamais. » Les travaux étaient commencés depuis 6 semaines quand une grue s'est effondrée. Il y a eu 3 morts parmi les ouvriers. La sémitime s'est déchaînée contre moi et Eurobuild. Ça a été un véritable lynchage. Je sentais qu'il s'agissait d'un souvenir douloureux pour lui. J'insistais pourtant.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
La version officielle, celle des experts, c'est que la grue était posée sur un souterrain et que tout s'est effondré. Elle était trop lourde. Une erreur de plan. Évidemment, nous, archéologues, avons été montrés du doigt. On aurait dû savoir, on ne pose pas une grue sur du gruyère. D'ailleurs, comme je te l'ai dit moi aussi, depuis le début j'étais persuadé que ce terrain n'était pas constructible. Je m'étais piégé moi-même avec cette histoire de complexe touristique. Mais ça n'est que la version officielle. Il marqua un temps de respiration. Dans le silence, j'eus l'impression d'entendre bouger des feuilles sur la colline, juste au-dessus de nos têtes. Le vent, sans doute, ou, pourquoi pas, ce marin sou qui nous espionnait. La lueur du phare des enchaînés éclaira la plage. Je suivis des yeux le rayon lumineux, comme la lampe torche d'un policier. J'hésitais à demander à mon père de parler moins fort. Je ne dis rien. Ma version personnelle, Colin, c'est que la grue ne s'est pas effondrée à cause du souterrain. Ma version, c'est que la galerie sous la grue a été sabotée. Des poutres ont été sciées. Pour moi qui connaissais par cœur ces galeries, c'était évident. Pas pour les experts du continent, hélas. Ils n'ont pas cru à notre thèse du sabotage, du complot, l'île mafieuse et de tout le reste. Pour eux, l'île était peuplée d'honnêtes gens. L'association Saint-Antoine et l'entreprise Eurobuild étaient les seuls responsables. La sémitime avait gagné. On était discrédités, Eurobuild se retrouvait en procès et ruiné. On n'avait plus qu'à dissoudre l'association et revendre le terrain. La sémitime se tenait à l'affût.
T'aurais laissé faire ça ?
J'étais ravagé, tu peux pas imaginer. J'étais responsable de la mort de ces 3 ouvriers. 3 hommes jeunes, 3 pères de famille. La main de mon père se referma, crispée jusqu'à l'extrême, sur une poignée de sable. Une terrible émotion m'étreignait. Je criais presque.
« C'était pas ta faute ! C'était un sabotage !»«
Si, » fit-il calmement. « C'était tout de même ma faute. À cause de mon arrogance, de mon entêtement, de ces principes auxquels je ne voulais pas déroger. » Cela représentait quoi ? Un paysage préservé, de vieilles pierres relevées face à ces 3 morts. C'était la fin de tous mes idéaux. Je sais pas si tu peux comprendre. Alors j'ai dissous l'association. J'ai rédigé une lettre d'adieu où je m'accusais de tout, pour disculper au maximum Gabriel et sa société Eurobuild. Puis je suis parti en haute mer, et j'ai décidé de disparaître à bord d'un bateau emprunté. Je pensais qu'ainsi, personne ne serait menacé. Ni toi, ni ta maman, ni les autres. J'endossais tout. Et la clandestinité allait m'aider à démasquer les véritables coupables, trouver des preuves, inverser le cours des choses. Il jeta un regard vers les vagues qui venaient lécher le sable. avant de reprendre son récit. Tu remarqueras que j'étais toujours aussi orgueilleux, arrogant, sûr de moi. Je pensais une nouvelle fois qu'à ma dignité, ma réputation, mes idéaux ternis. J'avais rien compris, Colin. Mais j'avais pas le temps de penser. Je réagissais, c'est tout. J'étais en danger de mort à l'époque. Je le suis toujours, d'ailleurs. Je leur ai souvent échappé de peu. Il est impossible de savoir ici à qui se fier, à qui faire confiance. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la fuite et l'anonymat. À mon tour, j'observais le va-et-vient des vagues. Ainsi, mon père avait choisi délibérément l'exil et de ne pas revoir son fils. Je tentais de refouler une sorte de colère naissante. En choisissant la clandestinité, mon père m'avait sacrifié moi aussi. Sacrifié mon enfance, gâchée par le mensonge. Je souris dans l'ombre de mon égoïsme. Des milliers de pères agissaient ainsi, partout, et pas pour de tels idéaux. Pour un banal divorce, une fuite médiocre. Tous mes copains de classe qui vivaient sans vrai père dans des familles recomposées. La lueur du phare glissait au loin sur la mer. Les nobles idéaux, la dignité perdue, étaient-ils les seuls motifs de mon père pour nous abandonner? N'y avait-il pas une autre raison? Cette Jessica, par exemple? J'eus envie de prendre la main de mon père, de la serrer fort, mais malgré moi, je n'osais pas. Une dernière distance n'avait pas été abolie. Mes idées se brouillaient, mais cette réserve me semblait naturelle. Une relation normale entre un adolescent et son père. Une gêne physique qui n'entamait en rien mon admiration. Une envie de lui ressembler plus que de le toucher. Normal? Dans mon cas, pouvait-on considérer mon Œdipe comme normal? Mon père me regardait. Ressentait-il les mêmes émotions? Cette timidité après toutes ces années? Un manque de ne m'avoir jamais pris dans ses bras pendant 10 ans, l'envie de le faire, mais cette pudeur aussi. Malgré tout, nous n'étions encore que 2 étrangers. Il sentit que je m'égarais dans mes pensées. « Où es-tu parti, Colin ?» Je me contentais d'un sourire. Un nouveau craquement nous fit cette fois nous retourner tous les deux. « C'était quoi ? » fis-je. Mon père me fit signe de me taire. Nous restâmes tous les deux de longues secondes aux aguets. Rien. Mon père m'adressa à son tour un sourire rassurant. « Les bruits de la nuit, j'ai fini par me méfier de tout. J'espère que tu vas pas finir comme moi, une proie apeurée au visage mangé par la barbe, des lunettes et une casquette pour que personne ne puisse t'identifier. » Je bottais en touche. La question me brûlait les lèvres. « Et maman ?» La main de mon père se crispa une nouvelle fois dans le sable. « Maman, bien sûr tu l'appelles maman. Pour moi c'est toujours Anne. Je sais pas... C'est terrible. Je sais pas. Lorsque je me suis enfui en bateau, en laissant ma lettre d'adieu et en me faisant passer pour mort, j'ai rejoint Gabriel, qui m'avait trouvé une planque. Sur un de ses chantiers, près de Vannes. Ta mère était au courant. On se téléphonait régulièrement. Elle était très inquiète. Elle avait peur pour moi. Elle n'appréciait pas du tout cette idée de lettre d'adieu, cette stratégie, me faire passer pour mort. Même si j'avais réussi à la convaincre que c'était la meilleure solution pour la protéger. Pour te protéger, Colin. Toute ma vie s'éclairait sous un jour nouveau. Je comprenais maintenant les derniers mots de ma mère. Ton papa est parti loin, très loin. Mais tu le reverras. Tu le retrouveras. Elle ne voulait pas me mettre en danger en m'apprenant la fuite de mon père, mais elle voulait tout de même me rassurer. « Comment est-elle morte ? » demandai-je d'une voix basse. Ces mots me brûlaient la gorge. Mon père parla d'une traite, sans respiration. Sa voiture est sortie de la route en pleine nuit, elle était seule. Elle s'est encastrée dans un arbre, elle retournait à Morne-Saix. Personne ne sait ce qui s'est passé, personne ne saura jamais sans doute. Ici encore, la version officielle, c'est un accident. Mais presque tout le monde a pensé que c'était un suicide, qu'Anne n'avait pas supporté ma disparition. Mais Colin, écoute-moi bien. Ce n'est pas ça, oh non. Cela au moins j'en suis certain. Elle savait que j'étais vivant, elle m'attendait. Nous nous étions parlé quelques heures avant. Tu étais vivant toi aussi, tu avais besoin d'elle. Non Colin, elle n'avait aucune raison de se suicider. De t'abandonner, de nous abandonner. Nous nous aimions, nous formions une famille. Malgré moi, l'image de la main de mon père sur la cuisse de cette Jessica ressurgit, obsédante. Mon père ne me disait pas tout. Il s'était passé autre chose. Et si tout simplement mon père avait fui, abandonné ma mère, son fils? Et si tout simplement ma mère n'avait pas supporté une telle rupture? Non, ne pas penser ainsi. Il fallait écouter, croire la version de mon père. Il dut percevoir mon trouble. Enfin, il me prit la main. La voix de mon père était descendue dans les graves. Un accident de la route? J'arrive pas à croire ce hasard. Non. La disparition de ta mère les arrangeait. Il savait que ta maman serait aussi inflexible que moi sur la vente du terrain, surtout après ma disparition. Elle était devenue la propriétaire du terrain. Mon père marqua un silence. Un frisson me parcourut. Oui, même si j'en ai pas la certitude, je pense qu'ils ont tué ta mère. Elle connaissait des noms aussi. Elle était au courant de tout. On parlait beaucoup tous les deux. Elle représentait une menace pour eux. Oui, j'ai été imprudent à l'époque de la laisser seule. J'ai eu le temps de repenser à tout ça depuis 10 ans. Elle était menacée, mais je m'en suis pas rendu compte. Je les croyais pas aussi dangereux, aussi puissants. Elle était condamnée, elle aussi. Avec l'accident, le sabotage du souterrain, ils avaient déjà du sang sur les mains. Ce sont des criminels, Colin. Des criminels organisés qui sont parmi nous, que l'on connaît, dont on ne se méfie pas, mais qui sont tout près de nous, autour de nous, prêts à tout. J'avais froid désormais. Ces révélations avaient quelque chose d'irréel. Je commençais à frissonner de partout. Il me restait une question sans réponse. On avait retrouvé un noyé qui portait les habits de mon père. Qui était ce noyé? Comment avait-il fait? Mon père avait-il à son tour dû tuer quelqu'un pour le remplacer? Un de ceux qui l'avaient trahi? Je n'osais pas poser la question. J'en avais assez de toutes ces révélations effroyables. J'avais envie de me serrer contre mon père, mais je n'osais toujours pas. Cette pudeur stupide me retenait. Je sentais qu'il me prenait pour un homme, pour plus grand que mon âge, pour plus courageux. Je regardais autour de moi, la nuit partout, distraite par le faisceau régulier du phare, le bruit des vagues. Je ressentais une grande peur monter en moi. Je repensais à ce marin édenté au-dessus de nos têtes, peut-être devant sa télé, peut-être à nous espionner. À ce Valerino, ce forçat en cavale, sans doute un membre actif de la Sémitim. Un assassin. Peut-être celui de ma mère. Mon père se rapprocha un peu plus de moi. C'est pas tout, Colin. Je t'ai pas encore parlé de ton rôle dans toute cette histoire. Il posa la main sur mon épaule. Elle me sembla glacée. J'ai un service à te demander, Colin. Un immense service. J'ai pas le choix. Ce sera peut-être dangereux, mais ce le sera encore beaucoup plus pour toi si je ne te le demande pas.